Radio Libertaire, Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo. C'est l'émission Chronique Hebdo jusqu'à midi. Et on vient d'entendre les oiseaux de passage. Georges Brassens, hein, sur Radio Libertaire. Et puis avant, eh bien, c'était la chanson Mythe, puisque on parle anglais, hein, ou Meat is Murder des Smiths, hein, la, bon, la viande est à meurtre. Et bon, il y a eu quelques, j'ai vu ça là, manifestations, enfin de, bon, d'une sorte d'apnée dans une femme dans une assiette recouverte de sang, hein, pour essayer de sensibiliser ou de montrer un petit peu ce que ça voulait dire, donc d'avoir des animaux comme nous sommes des animaux, hein, dans son assiette. Alors c'est pour ça que j'ai passé cette chanson, hein, puisque vous savez, j'évoquais Élisée Reclus avec la considération des animaux. Il n'est pas le seul, évidemment, à l'époque, hein, mais en tout cas. Et puis aussi, le fait qu'il avait décidé de ne plus manger d'animal ou d'animaux. Et puis, de devenir végétarien. Au-delà, vous savez, le mouvement vegan, hein, qui réfléchit, enfin qui pose des questions, qui ennuie évidemment beaucoup de monde, à propos de ce que l'on fait aux animaux et comment on les utilise pour la peau et pour tous les sous-produits donc que l'on peut retirer de l'exploitation et du massacre des animaux. Comme jamais, hein, puisque les pays en voie de développement, comme on dit, que ce soit l'Inde aussi, vont s'y mettre. Et puis la Chine, eh bien, il n'y a jamais eu autant d'animaux élevés, hein, pour, comme disait Élisée Reclus, hein, pour être bouffés. Et bon, à l'époque, quand il le disait, ça ne représentait pas beaucoup d'animaux, hein, alors que maintenant c'est par centaines, milliards. Alors là aussi, c'est en relation avec ce que je vous dis, hein, au moins se questionner, se poser la question plutôt que de dire bah non, moi je changerai pas. Il faut gagner, selon l'expression, gagner son beefsteak, hein, pour ou manger de la viande avec du sang pour être costaud, pour être fort, hein, tout ça, enfin toutes ces conneries-là aussi, elle est prise à l'école de la République et puis dans les sociétés, hein, qui rabâchent, qui radisent les mêmes conneries, les mêmes inepties qui tournent en boucle. Alors, un journal là que j'ai sous les yeux aussi, puisqu'il parle de la jungle, là on parle des animaux, je vous l'ai dit, hein, ce que l'on fait aux animaux, on le fait aux hommes, hein, puisque ce sont des êtres humains, ce sont des animaux humains. Et puis, donc la jungle, hein, là vous le savez, ce qu'on fait aux hommes, on le fait aux animaux, ce qu'on fait aux animaux, on le fait aux hommes. Hein. Bon, on le sait, puisque là je vous dis ça comme ça aussi, l'histoire de ce qui est arrivé au Maroc, hein. Alors au Maroc, là aussi dernièrement, puisque ça bouge, ça a remué, vous savez, un vendeur, là ça rappelait l'histoire de la Tunisie, Mohamed Bouazizi, on en a parlé beaucoup à l'époque, hein, je me souviens, j'en ai parlé beaucoup quand même de ce qui s'est passé après, vous le savez, donc ça avait été déclenché par un petit vendeur à la sauvette, comme on dit, en Tunisie, qui avait été giflé et on lui avait craché dessus par une fliquesse. Hein. C'est comme ça que ça a commencé. Immolation de Mohamed Bouazizi après par le feu. C'était en décembre 2010, après la répression. Vous savez, on a les moyens. L'autre l'avait dit ici, hein, pour mater Mam. C'est ce qu'elle avait dit à l'époque, l'expérience française. Donc, déclenchement d'événements importants en Tunisie, voir actuellement la situation en Tunisie où elle en est, enfin vous savez toutes les péripéties, j'ai pas le temps de revenir dessus, mais ce que ça avait provoqué et peut-être aussi des possibilités pour la situation marocaine qui est dans le même aussi autrement, hein, puisque c'est autrement, puisque la monarchie. Mais là encore, on peut dire qu'il y a une administration, comme on dit, tentaculaire du palais royal, qui s'appelle la Maxen, là-bas. Et donc, on en a déjà parlé, l'administration à l'œuvre dans tous les pays, hein, là aussi, de maintenir les populations, mais autrement. Donc, pour ce qui se passe au Maroc, un vendeur, un peu à la sauvette d'Espadon, enfin, faut le rappeler, espèce protégée, après ce que je viens de dire, où vient de passer la viande meurtre, et de voir aussi la... le fait de tout rafler dans les mers et dans les océans, avec les risques que ça peut avoir. Donc là, Espadon, espèce protégée, mais pour lui, il s'est pas protégé, enfin, les conditions de vie, de survie là-bas. Et donc, il s'est fait happer par une benne à ordures. Et donc, il est mort. Alors, il y a eu des manifestations importantes au Maroc, puisqu'ils ont eu les jetons, enfin, quand on voit les gueules aussi, là-bas, de tout leur gouvernement, enfin, c'est la même chose partout, hein, vous savez. Et donc, le ministre de l'Intérieur a lancé une enquête pour savoir qui avait déclenché la benne, le mouvement de la benne. Hein. Bon, on va pas faire le jeu de mots. Qui, pour savoir, donc le malheureux a été happé par cette benne à ordures, il en est mort, après les protestations, puisque maintenant avec les petites machines, ça a été plus ou moins filmé, c'est passé sur Internet. Et alors ce que je voulais vous dire par rapport à ça, bah, deux observations, là aussi, COP22, hein, COP21, vous savez, COP flic, hein, que ça va être la transition énergétique, chère à Madame Royale, une grande victoire pour le capitalisme. Enfin, tout ça, c'est des conneries, vous le savez bien, hein, si vous êtes un peu informé, bon, sans ne pas écouter forcément Radio Libertaire, hein. C'est une escroquerie. Dès que le capitalisme fait des trucs, hein, le réchauffement, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Le réchauffement climatique, de qui, de quoi et où, dans quelles conditions. Alors, là aussi, ils ont signé, soi-disant, des trucs et tout pour des obligations. C'est bidon, tout ça, c'est bidon. Et donc, ça va être, c'est elle qui va passer le flambeau. Alors, j'espère que ça va se calmer, parce que ça serait dommage de lui louper quand même la fête là-bas. Hein. Donc, la semaine prochaine, la COP 22. 22, là, la COP. 22, là, les flics. 22, la COP 22 à Marrakech. Alors, observation aussi, bah, c'est évidemment une foutaise, une escroquerie, hein, cette transition énergétique. Alors, peut-être qu'ils étaient en avance pour la transition énergétique au Maroc, vous savez pourquoi. Je le redis souvent dans cette émission, puisque là, on a vu le nombre de familles expulsées, hein, en France, là, avant le 1er novembre, bon, sans expulser ceux de l'Élysée et de Matignon, 65 000. Le nombre de, rien que sur Paris, Île-de-France, enfin, on parle de 90 000, sans A. Parce que les SDF, hein, ce qui veut rien dire, hein, vous savez bien, donc. Ben pour eux, ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire la souffrance, enfin bon, pas bouffer, de crever dans la rue. Donc ces conditions-là sont reliées à ce que je vous dis par rapport à la situation au Maroc. Et vous savez qu'il y avait un fameux film Soleil Vert, hein, puisque c'était, on récupérait donc les cadavres. Et là aussi, je vous dis souvent, cher à Patron, hein, cher à Cadon, cher à Neutron, cher à Goupillon, rien d'autre. Hein, bon, pour beaucoup, les classes sociales, hein, vous savez, les riches, les milliardaires et la bourgeoisie, l'aristocratie, qui a tout confisqué, qui garde tout pour elle, que ce soit là-bas, c'est pareil. Et puis, la population là-bas, au Maroc, la population qui souffre. Alors, aussi, transition, comme on dit, on est transi, énergétique, et là, je voyais ça, je veux dire, bon, ben là aussi, quand il y a du surplus, hein, vous savez, ils font la guerre, donc faut massacrer, hein, faut que quelques centaines, millions de gens disparaissent, hein, pour la suite, pour les équilibres planétaires. Donc, on pouvait faire cette observation par rapport à cette séquence, donc, à la fois, ce qui s'est passé au Maroc, de voir où ils peuvent en être, eux, en même temps en relation avec la France, puisque vous savez que tous ceux, bon, la riche, les bandes, la bourgeoisie, tout ça, ils ont tous là-bas, Marrakech, ils ont de quoi faire, de quoi vivre, en fait, ils ont tout ce qu'il faut, l'installation, le confort et tout ça, ils vont se bronzer le cul là-bas, enfin, tout, bon, pendant que les travailleurs donc travaillent, enfin, ceux qui travaillent encore en France, enfin, bon, il y en a encore là aussi, puisque les chiffres les chiffres de l'imposture, hein, vous savez, là aussi, les derniers chiffres de Pôle emploi, je vous parlais de Métropole emploi, bien sont bidonnés, hein, la fourbe du chômage, tout ça, puisqu'il y a eu 500 000 formations, stages, hein, donc c'est une façon de maquiller, puisque c'est bien simple, si vous, évidemment vous êtes auditeur de Radio Libertaire, vous le savez, ils ne font que mentir, puisque c'est leur fonction première, hein, donc de le mensonge dans tous les domaines. Et puis tout ça, ça se retourne évidemment contre la population. Et l'habileté, enfin l'habileté, la grossièreté de l'ensemble des médias, ben, c'est faire le contraire, donc dire qu'ils disent des choses extraordinaires, qu'on a besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux, vous rendez compte, hein? Qui va être le prochain? Qui va gouverner le troupeau, hein? Qui va le mener à l'abattoir? Alors tout ça, c'est important. Donc c'est un peu ce qui pouvait se passer donc au Maroc avec cette situation de la COP 22. À propos de cette affaire, hein, grave aussi, et du mépris, évidemment, de la condition humaine. Mais vous le savez, la condition humaine, le mépris, eh bien, si c'est des pauvres, hein, puisque Le Mondain a sorti quelques articles sur la pauvreté, parce qu'elle est mal vue, hein. Donc, dans l'ensemble, on a fait à ceux qui sont un peu au-dessus, qui sont pas encore déclassés, milieu populaire, pas encore déclassés, ou les classes moyennes, comme on dit, hein, petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, eh bien, il y a une sorte de mépris, hein, ils en ont marre, hein. Alors, c'est ce qu'ils nous disent. Alors là, encore une fois, ça tourne en boucle. Qui vous le dit? Quels sont les journaux, puisque les salariés, comme en parlent les journaleux, du mensonge, comme disait Guy Debord, qui sont à l'œuvre un petit peu partout, et regardez, enfin bon, évidemment, faut pas confondre avec le journalisme, et là j'en voyais cette information, les galériens de l'ITélé, vous savez, du Bolloré, hein, qui peut se passer, qui peut faire des chaînes de télévision sans journalisme, ils le montrent, hein, puisque ITélé, je vous l'ai dit, CNAS, CNews, ça va se transformer, et pour le moment, le mouvement d'arrêt, on va pas parler de grève, ça n'existe pas, y aurait pas, on s'en aperçoit pas, parce qu'ils font des reportages en boucle. Là, Madame Laurence Ferrari, que certains d'entre vous peuvent connaître, hein, peut-être, hein, sévit évidemment dans différents médias. Ceux qui s'intéressent aux médias et voir quel rôle on fait jouer à tous ces personnages défilent courageusement. Et ce qu'elle dit à titre personnel, j'estime que je ne peux pas faire la grève, hein, Madame Ferrari, et que le droit d'informer et à être informé est inaliénable. Hein, alors c'est beau, hein, donc je veux pas parce que je suis journaliste. Alors on lui a pas dit non, c'est pas évidemment ça. Propagande, mensonge, tandis que la rebelle non gréviste Audrey Pulvar, hein, donc là aussi compagne de l'ancien Montebourg, hein, puisque tout ça c'est en famille, ça copule. Enfin non, je vais pas dire ça puisque c'est consanguin plutôt, qui s'est vu confier une nouvelle émission culturelle sur ITélé, a balancé, bah oui, on l'a dit, mais c'est dommage, ça n'existe pas, lors d'une assemblée dite générale. Malheureusement, Monsieur Bolloré était chez lui et faisait ce qu'il voulait. Hein? Voilà, alors ils disent, bon, la petite blague là, c'est la lutte finaude, hein? C'est la lutte finaude. Voilà où on en est, où on peut tolérer ça. Et c'est ce que je vous ai dit peut-être tout à l'heure, comment on peut tolérer ça? Bah, bah, essayer de vous... Tentative d'explication qui passe déjà, évidemment, par l'école, par le catéchisme républicain. Alors, je vais passer un petit peu de musique, hein, vous rappelant le numéro du studio 01 43 71 89 40. Grégory Reinhardt et Stéphane Grappelli sur Radio Libertaire. Eh bien, l'émission Chronique Hebdo reprend avec beaucoup d'appels. Alors, et toujours intéressant évidemment avec les auditeurs, hein, puisque rapidement, donc une auditrice pour Monsieur Juppé, évidemment, il faut quand même le rappeler. En dehors du fait qu'il risque d'être jugé sur le plan pénal, crime contre l'humanité avec les essais nucléaires dans le Pacifique, hein, ça sera peut-être à venir. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a des articles dans la presse et en particulier dans Charlie Hebdo, signé Nicolino, hein, que des auditeurs doivent connaître. Là, c'est pour Monsieur Juppé, puis rappeler quand même une bonne nouvelle. Souvenons-nous qu'en 1995, hein, à partir de ce JPP, droit dans ses bottes, premier sinistre, eh bien, il y avait eu des grèves extrêmement longues en Île-de-France et puis dans toute la France après, hein, pendant plusieurs mois. Donc on peut penser, dans toute logique, que s'il y avait une élection, parce que nous, il n'y en aurait pas, évidemment, puisque une auditrice nous disait tout à l'heure que c'est la même chose, hein, une campagne publicitaire, une campagne électorale. Elle rappelait que des études qu'elle avait pu faire à un moment, tentées peut-être, je ne sais pas, par une brillante carrière dans la publicité, un des profs, si on peut appeler ça comme ça, donc lui leur avait précisé donc aux élèves que n'oubliez pas que vous vous adressez à des cons. Alors, on l'a déjà dit, pour ce que Kavanagh pouvait rappeler, que la publicité vous rend con, la publicité vous prend pour des cons. Enfin, toutes ces histoires, évidemment, de publicitaires, et quand on voit la gueule, hein, de ces gars-là, de ce gars-là, hein, avec sa Rolex, et donc, il a été relaxé, oui, relaxé. Eh bien, c'est une certitude, hein, évidemment que c'est comme les États-Unis, c'est une campagne publicitaire, là encore ce sont des produits, j'ai parlé des produits en magasin, des produits qu'il faut installer, des produits qui sont là, hein, justement, pour au bénéfice évidemment de ceux qui touchent le pognon. Alors, là aussi, un petit peu de chansons, hein, puisque je vous avais dit, on a été un peu avec Georges Brassens tout à l'heure. Je vais vous rappeler que cette histoire de l'histoire de France sans nuance, pour la jeunesse, c'est une vaste enquête, hein, je reviens dessus, auprès des élèves de plusieurs pays, dont la France, montre que le récit national reste dans toutes les têtes. Eh bien, c'est bien l'histoire, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a été façonné auprès de 6600 élèves, donc de 11 à 19 ans, en leur posant la question « Raconte l'histoire de ton pays comme tu le veux ». Alors, ils ont raconté comme ils voulaient, justement, en toute liberté, après ce qui avait été transmis par l'école de la République. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu le récit patriotique de la nation, hein, avec une succession. Alors, quand on a relevé les textes, les épreuves de la déception, enfin qui n'en était pas une, c'est les procédés narratifs. Et la même manière, comme on parle, vous savez, souvent, on reprend le terme terminologie publicitaire, justement, de name dropping, que certains personnages réapparaissent comme dans les copies, hein, dans les 6600, comme presque comme par réflexe, hein, moi je dirais de façon un peu comme pavlovien, hein, de façon de réflexe pavlovien. Et la récurrence des événements et des personnages. Alors, je vous dis un petit peu la liste, hein, dans toutes ces copies, qui est quand même, on parle d'un panthéon mythologisé, hein, dans les têtes, hein, comme je vous dis, dans les têtes d'élèves actuels, mais qui pourraient très bien se retrouver, ça se pourrait se retrouver exactement dans les têtes de personnes plus âgées, hein, dans les générations antérieure, sans parler évidemment des générations futures. Donc on retrouvait le mot gaulois, hein, puisque vous savez c'était à la mode, il a dû aller voir ça l'autre pour plancher nos ancêtres. La guerre de Cent Ans, les Romains, François Ier, la guerre Louis XIII, la guerre aussi, le mot guerre revient évidemment, puisque c'est, on vous le dit un peu souvent, ça c'est pas un scoop, ce sont l'histoire des guerres, hein, et des grands personnages devant lesquels évidemment chacun, enfin pour beaucoup couché ou allongé, comme on dit, personnalité. Donc, ah oui, je vous l'avais pas dit. Si, je pense que je vous l'ai dit ce matin, pour les élections, pour ces présidents, le palindrome élu par cette crapule. Hein, vous savez, c'est le meilleur palindrome pour les élections. Quand on voit aux États-Unis comme en France, qui pourrait aller voter, hein, qui pourrait aller voter et qui pourrait aller voter pour qui et pourquoi, hein, élu par cette crapule. Ce que j'ai dit quelquefois, on pourrait être poursuivi après, hein, pour évidemment complicité de malfaiteurs. Alors la liste, je vous la fais. Louis XIV, hein, Exposition universelle. Louis XV, c'est actuel. Charlemagne, Louis XVI, Hugues Capet, De Gaulle, Clovis, Chirac, hein, Vase de Soissons, François Mitterrand, voilà ce que j'ai, c'est un inventaire à la Prévert. Jean Moulin, mais Prévert le malheureux, non, c'est pas Prévert. Hein. Jean Moulin, prise de la Bastille, guerre de colonisation, 14 juillet, Simone Veil, Galilée, droit de vote des femmes, Copernic, Olympe de Gouges, Van Gogh, Moyen-Âge, Verdun, guerre napoléonienne, à Napoléon, alors il est là. Hein. Alors il est là quand même dans le conscient, l'inconscient, le subconscient, le néoconscient des petits Français et puis des vieux Français, hein, donc là il aurait planqué peut-être pour l'Allemagne, je ne sais pas, enfin des sanguinaires, enfin il y en a d'autres, hein, vous le savez bien, mais donc la sûre enfin est aux Invalides, les Mousquetaires, Richelieu, République, démocratie, alors là c'est important, ça cire pas mal, ça revient, République et démocratie, Marie Curie. Mai 68, et mai 68, ça échappe quand même, hein, on dit, on sait jamais, ça pourrait revenir. Donc c'est de l'histoire, il faut l'enfouir, hein, et bah, comme ça, on ne va que souvenir mai 68, bah, déjà pour des jeunes de 11 à 19 ans, hein, c'est un peu ancien. Saint-Exupéry, hein, là aussi, le petit prince, je pense, ça fait partie, hein, on sort tout de suite, c'est pavlovien. Louis Pasteur, Marie-Antoinette, le débarquement. L'occupation allemande, juin 44, le régime de Vichy, hein, voilà, bientôt, ça nous revient, ça s'en va et ça revient. Alors, les 30 glorieuses, hein, vous le savez, donc jusqu'en 73, jusqu'au choc pétrolier, comme ils avaient dit, une escroquerie de plus, les 20 piteuses qui auraient suivi, la coupe du monde, enfin maintenant on pourrait appeler, je sais pas, les 10 pitoyables, hein, où on en est, enfin les désastreuses, les 10 dernières, les 10 désastreuses, la coupe du monde 98, hein, aussi. Alors voilà, ça c'était les personnages et les termes et les événements récurrents, comme je vous parlais, d'une sorte de panthéon mythologisé. Alors, plusieurs articles, dont celui-là, hein, puisque que j'avais relevé dans le journal Le Monde, parce qu'ils avaient fait un peu une contraction, hein, le journaliste avait écrit que dans le panthéon des élèves français arrive en tête de gondole, Louis XIV, Napoléon, Charlemagne, Louis XVI et Clovis, et pour le XXe et XXIe siècle, De Gaulle, Hitler, hein, celui-là il est quand même, faut pas l'oublier, et Sarkozy. Alors en même temps, les relier ensemble, De Gaulle, Hitler et Sarkozy, voilà ce qui peut constituer le récit du commun, l'histoire nationale, un peu racontée par les élèves. Alors là aussi, on revient dedans. Bon, je vous parlerai un peu de la Révolution française, évidemment, de 1789, la Révolution bourgeoise, hein, puisque la Commune de Paris est complètement absente, hein, puisque là aussi, je vous le rappelle souvent, elle était interdite d'enseignement par l'école de Jules Ferry, ça a duré 30-40 ans, à partir de l'avènement justement des Jules, pour l'école de la République. Donc, on pouvait revoir aussi que dans les copies, le sentiment, c'est que bien d'être français, on est fier d'être français, une sorte de fierté, hein, pour tous. La France n'attaque jamais, hein, voilà, elle conquiert, mais n'envahit pas. C'est ce qui peut apparaître à peu près dans les copies. En revanche, Les heures, nous dit le journaliste, moins glorieuses, telles que la guerre d'Algérie, donc sont pour une grande partie ignorées. Hein, voilà. Bon, ben, là aussi, 11-19 ans. Hein, nous aussi, enfin, à notre époque, on peut dire que tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et les répressions à l'intérieur de la métropole emploi, là aussi, ça a été totalement escamoté. Hein, je ne crois pas en des répressions dans les années 60, hein, Charonne. Alors, là aussi, les héritiers de cette histoire nationale, c'est-à-dire qu'ils font leur une sorte d'incorporation cette histoire. Elle devient naturelle. Elle devient partie prenante de leur personne. Hein, c'est ça qui est quand même important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fabrique du citoyen. Là, je vous parle que de l'histoire. Hein. Je vous parle pas de la littérature telle qu'elle est abordée dans l'école de la République, les langues, les sciences, la géographie, les sciences humaines et un petit peu de philo, comment c'est enseigné, et de la même manière, on aurait certainement donc les mêmes surprises, et voir qui est escamoté, qui est mis de côté, qui est mis placé à l'index, et qui revient en boucle, et qui fait une sorte de tronc commun pour, quand on parle dans cette société, pour le citoyen, hein, comme on l'appelle dans cette émission. Alors, là aussi, une autre manière d'aborder le sujet, un titre que j'avais relevé un prof de lycée à Paris et à l'université Paris Diderot, qui avait pointé que la Révolution française dans les récits d'élèves, quelques indices de la dépolitisation d'un événement historique. Et là, on voit, au travers, évidemment, de plus de la Révolution française, comme une sorte, bon, j'ai employé ce mot-là, de potentiel téléologique, hein, c'est pas compliqué, ça veut dire la téléologie, enfin, c'est pas la télé que vous avez chez vous, mais c'est une sorte d'aboutissement d'une finalité, et la finalité, ça serait quoi? Ben, ça serait pas la révolution en devenir, la révolution permanente, mais la révolution située à un moment de l'histoire qui aurait été une sorte d'aboutissement du modèle démocratique et républicain, et une sorte qui était quelque chose d'indépassable, et qu'une fois que ça avait été réalisé, eh bien, bon, les petits Français, les petits élèves, les bons citoyens, ben, pouvaient rester tranquilles chez eux, puisqu'ils avaient la meilleure organisation politique, la meilleure organisation sociale, le meilleur régime, hein. Comme avait dit l'autre, la démocratie, Monsieur Churchill, hein, il y en a, c'est pas brillant, mais il y en a pas de mieux. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, et donc, à partir du moment où on prend la Révolution française après le passage, et ça c'était dans les années 90 avec l'imposteur numéro 1 pour ce qui est de la France, François Mitterrand, hein, 90-95, avec Monsieur Furet, hein, Furet, l'historien que personne nous envie, et donc lui et sa bande. Il y avait Madame Mozouf, enfin il y en a d'autres, hein, dedans. Pénétration dans les programmes, notamment dans ces années-là, 90, hein, les années 90, transformant l'événement révolutionnaire en une histoire désincarnée des idées politiques. Hein, c'est-à-dire, on l'apprend, je dis souvent, comme une comédie musicale. Hein, il n'y a pas de politique là-dedans. Et à la fois, petite fille, comme ça c'est bien enfoui, des révolutions anglaises. La Révolution française bourgeoise, 89, fille des Lumières et de la Constitution américaine. La Révolution française était devenue, hein, là, c'était cette époque-là, à peu près, mais ça a duré après, un bréviaire des expériences politiques alternatives à l'absolutisme. Et une fois que c'était arrivé, eh bien, une fois que ça a été résolu, hein, cet absolutisme ayant disparu, comme vous le savez, puisque regardez autour de vous, hein, évidemment, il n'y a pas d'absolutisme dans les programmes politiques, dans la France de 2016, hein, c'est pas un pouvoir absolu. Et ailleurs, de la même manière, hein, légitimé évidemment par le suffrage dit universel, eh bien, On en restait parachèvement de tout ça, eh bien, au préféré, après, on le voit bien, l'exégèse de la Déclaration des droits de l'homme, document patrimonialisé en histoire et fétichisé, fétichisme en éducation physique. Hein, l'éducation physique, ça sert à ça. Donc, c'est les droits de l'homme, c'est un fétiche, ça appartient au patrimoine, c'est la Révolution française. Et donc, vous avez bien compris comment l'école de la République peut dépolitiser l'histoire, hein, au travers de ça. Donc, totalement dépolitiser à la fois l'histoire et à la fois l'élève. L'élève qui en ressort groggy, je pense, quand on voit peut-être les étudiants de maintenant, et puis d'avant. Enfin, je ne sais pas, là, pour le constat, j'ai fait cette petite observation dans une université que je connais un petit peu du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, c'est propre, c'est clean. Il n'y a plus de tracts politiques, il n'y a plus d'affiches, il n'y a plus de slogans, il n'y a plus de tags, il n'y a plus de graffitis. C'est propre. Et donc, ça apprend, ça, évidemment, et pour avoir une réussite au bout du bout, hein, c'est-à-dire, donc, un bon boulot, enfin, un bon boulot, ça veut rien dire, qui leur permettra de gagner des sous et de s'installer comme des petits bourgeois ou des bourgeois, puisque c'est l'école de la bourgeoisie, et donc, c'est le modèle bourgeois qui est enseigné, qui réussit, et qui réussit quand même assez bien, hein, puisqu'on regarde la tranquillité on ne sait jamais, hein, c'est comme en 68, dans l'ensemble des universités et des facultés. Alors, intéressant pour voir justement à l'œuvre comment ce type d'enseignement peut dépolitiser justement les personnes qui peuvent après le subir et recracher une sorte d'histoire commune, hein, comme quelque chose, comme je vous le rappelle, de naturel, comme quelque chose qui va de soi, comme quelque chose qu'on ne remet pas en question, et aussi à cette idée de révolution avalée, absorbée, et qu'une fois pour toutes, nous sommes installés dans le meilleur des systèmes, dans le meilleur des systèmes démocratiques, dans le meilleur des systèmes républicains. Et donc, eh bien, à partir de ça, les petits-enfants, les adolescents, les étudiants peuvent donc rester tranquille, hein, voilà ce que je voulais vous dire, hein, puisque sur ces thèmes-là, pourquoi faire la révolution puisqu'elle a été faite, hein, pourquoi changer de régime de démocratie ou de république puisque c'est le meilleur et puis que c'est une évidence puisque nous-mêmes on en est convaincus, on en a été convaincus puisque on l'a reçu, hein, comme je vous le rappelle souvent, cette histoire comme un catéchisme républicain, comme une sorte de mantra qui est absorbé, hein, les mêmes idéologies sous les mêmes formes et qui font qu'après, eh bien, le citoyen, pour beaucoup, évidemment, rien n'est jamais terminé, mais comment il est difficile de se battre, puisque si l'école a ce pouvoir et à la fois après la société dans son ensemble, puisque la société est faite de personnes qui sont passées à l'école, les familles, les commémorations, la littérature, le cinéma, Internet et tout ça, eh bien tout ça, comme disait dans la chanson, et tout ça, ça fait d'excellents Français qui marchent au pas et qui sont prêts peut-être à continuer à se faire abuser, puisque d'une certaine manière, dans la façon dont on peut être abusé, eh bien, on y est partie prenante, une fois encore, hein, malheureusement, à l'insu de son plein gré, comme dit l'autre, à l'insu du plein gré de l'élève, qui a passé quand même beaucoup de temps dans cette école de la République, et puis, école privée, enfin, bon, école, là, c'est la même chose, hein, vous le savez, ou après, eh bien, faculté, grandes écoles, grands cons, les grandes écoles, de la même manière, donc cette continuité qui fait que cette machine capitaliste impitoyable continue donc à peu près à bien fonctionner. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo jusqu'à midi, numéro du studio 01 43 71 89 40.
J'entends bien, là-bas dans le lointain, c'est encore ton chien, qui grimpe sur le mien, et pourtant j'entends bien, là-bas dans le lointain, c'est encore ton chien, qui grimpe sur le mien, c'est l'ouverture de la chasse, ça me met de bonne humeur. Pour aller sur la baie de chasse, on se retrouve entre chasseurs. Et dedans la gibecière, faut surtout pas oublier d'apporter des packs de bière, même si c'est lourd à trimballer.
D'apporter des packs de bière, même si c'est lourd à trimballer.
On a sorti les pétoirs, les cartouches pour les rhinos. Sur la gueule on se peint du noir, pour faire comme les commandos. Et quand on lâche les clébards, ils arrivent tous en gelant, attachés du matin au soir, c'est sûr qu'ils sont bien contents.
Attachés du matin au soir, c'est sûr qu'ils sont bien contents.
Et pourtant j'entends bien, là-bas dans le lointain, c'est encore ton chien,
qui
grimpe sur le mien, et pourtant j'entends bien,
là-bas dans le lointain,
c'est encore ton chien,
qui
grimpe
sur le mien,
en tenue de camouflage, on a lâché des faisans, qu'on grandit dans un élevage, il vient nous voir en courant. C'est comme pour les tourterelles, pour que c'est moins fatigant. On leur a coupé les ailes, elles feront moins mal en tombant.
On leur a coupé les ailes, elles feront moins mal en tombant.
Il faut pas rentrer bredouille, une journée de safari. On a tiré sur des grenouilles, on a écrasé un bambi. Il avait perdu sa mère, tremblant au bord du chemin. Sous la quatrelle à mon beau-frère, qui faisait bien moins le malin.
Sous la quatrelle à mon beau-frère, qui faisait bien moins le malin.
Et pourtant j'entends bien, là-bas dans le lointain, c'est encore ton chien, qui grimpe sur le mien.
Et pourtant j'entends bien,
là-bas dans le lointain, c'est encore ton chien,
qui
grimpe sur le mien. À l'affût dans la bruyère, t'as entendu un grognement. Tu crois voir un facochère, tu dirais c'est l'accident. Accroupi dans les fougères, pris par un besoin pressant. T'as vidé ta cartouchière dans le cul du président.
T'as vidé ta cartouchière dans le cul du président.
Les députés à Bruxelles, ils voudraient nous empêcher. Zigouiller les tourterelles pour protéger le gibier. On a trouvé la combine, ça prouve qu'on n'est pas si con. Pour tirer nos chevrotines, on se présentera aux élections.
Pour tirer nos chevrotines, on se présentera aux élections. l'occasion de tirer nos chevrotines, on se présentera aux élections.
Radio Libertaire, dernière séquence avant l'émission suivante. Vous avez de Rimes et de Notes. À partir de midi, la chanson francophone, non crétinisante, hein, évidemment, comme celle que vous venez d'entendre, Les Glochots. Les Glochots pour cette chanson sur la chasse. Hein. Ça sent encore une spécificité des métropolitains. Et donc le nombre de personnes, hein, plus du million, hein, dans ce beau pays. Il avait dit du temps de la Révolution française. Eh bien, le prolo, hein, donc le pauvre, a les mêmes droits, hein, sur les animaux que celui du château. Hein. Donc voilà la suite, et la suite c'était ça, hein, le droit de chasse, hein, évidemment, on ne va pas lui retirer. Quand on voit ce que ça a pu donner, et là encore, dangereux, hein, d'aller vous balader à certains endroits. C'était notre ami Ciné, hein, qui faisait justement une chronique nécrologique pour la vengeance des renards, des lapins, des sangliers à l'encontre des chasseurs, et il tenait justement le bilan, hein, de ceux qui, de temps en temps, un coup de gâchette entre eux, puisqu'on est généreux, donc ils font fort profiter ses amis, et donc un de plus qui succombait dans cette guerre écologique, hein, puisque vous le savez évidemment que les chasseurs sont les protecteurs de la nature, hein, ils sont là, ils sont utiles à la société, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on nous dit, là encore l'école de la République, la chasse et la version, vous avez entendu la version des Glochots. Alors... oui, j'avais vu ça, voilà, ça c'était un truc justement, parce que je parlais des animaux, un titre du Mondain, journal du Monde, hein, le 28 octobre, vendredi, c'était « Biodiversité », parce qu'ils foutent les jetons, hein, de plus en plus, un titre « 58% des vertébrés ont disparu en 40 ans ». Alors, important, alors là, WWF, l'équivalent que l'humanité consomme, l'équivalent de 1,6 terres pour subvenir à ses besoins, que des bonnes nouvelles. Et en dernière page, puisque vous savez que c'est le journal des milliardaires de BNP, hein, Pierre Berger, Niel et Pigasse, et dernière page, on voyait Madame Léa Seydoux, peut-être une comédienne, vous savez qui c'est, enfin bon, qui fait partie de la haute dans le cinéma, elle est Seydoux, et là c'était une pub pour Huit Tontons et Rose des Vents. Alors je ne sais pas si Léa Seydoux donc avait des problèmes gastriques, hein, Rose des Vents sur les socialistes, mais c'est une espèce de la biodiversité des vertébrés qui pourrait évidemment disparaître sans que ça nous fasse beaucoup de peine. Alors, je vous avais parlé de cet ouvrage, hein, de petit-fils de Monsieur Che Guevara, 33 révolutions. Juste vous signaler cet ouvrage, hein, quand même, de Sanchez Guevara, Canek, traduit de l'espagnol, par René Solis, Métayer, vous pouvez trouver ça donc en librairie. C'est pas trop copieux, 110 pages. Hein. Et donc le petit-fils, une observation, donc il avait signalé dans ce bouquin, une de mes plus grandes inquiétudes est qu'après le processus d'idéologisation forcé, les malheureux cubains, ce processus d'idéologisation, c'est pas facile, hein, j'arrive plus, là je suis fatigué, se produise un effet inverse de celui qui est souhaité aujourd'hui par le pouvoir, qu'il y ait un vide idéologique, hein, on est un peu dedans, nous aussi, hein, et politique, qui soit immédiatement occupé par le capitalisme sauvage. Eh ben, on est dedans, hein, voilà, vous êtes dedans, ben c'est comme ça. Et donc, on le rappelle, qui était membre du mouvement libertaire cubain et qui était exilé au Mexique. Alors, fustigeant dans son ouvrage aussi la bourgeoisie d'État, hein, au service de la dictature, on avait ça un petit peu partout, hein, où c'est implanté, donc là aussi, maoïsme, stalinisme, les pays de l'Est, enfin la liste est longue, hein, il y en a d'autres, les pays d'Asie, d'autres pays aussi, influence plus ou moins forte, plus ou moins importante en tout cas, et là, il traduit, c'est un personnage un peu fictif, mais enfin qui résume un peu sa manière de voir aussi. Et puis, il parle dans une de ses nouvelles d'un ingénieur au service d'un ministre quelconque où il passe chaque jour 8 heures consacrées au néant. Hein, c'est le boulot, hein, vous savez ça, souvent c'est le boulot dans l'administration. Ils ne savent pas, 8 heures consacré au néant, hein. Qu'est-ce qu'il en restera de tout ça? Mais bon, là aussi, vu par le petit-fils de Che Guevara, c'est intéressant, et l'observation pour Cuba, eh bien le mur et la mer, le rideau qui nous protège et nous enferme, il n'y a pas de frontières, ces eaux sont le rempart et les barbelés, la tranchée et le fossé, la barricade et le barrage, nous résistons dans l'isolement, nous survivons dans la répétition, viva Castro, hein, comme avait chanté l'autre, hein. Donc il est toujours là, hein. Il est toujours vivant avec le frère, hein, puisque évidemment c'est en famille que ça se passe, et c'est la révolution, hein, puisque certains, vous savez, ont été quand même abusés par toutes ces révolutions, que ce soit lui, hein, Castro, quand c'était avec les maoïstes, à la belle époque, hein, pour ce que je vous parlais tout à l'heure, je vous citais 1968, enfin il y en a eu d'autres. Donc intéressant peut-être, puisque le titre « Mélancolie, torpeur et tcha-tcha », l'unique roman du petit-fils de Che Guevara, mort à 40 ans, montre un Cuba plus que désabusé, hein. C'est intéressant quand les libertaires, vous savez, ont été quand même assez pourchassés, lui, puisqu'il faisait partie de ce mouvement, par son grand-père, et assassiné, hein, vous le savez. Donc, le rappeler de temps en temps, c'est-à-dire que le communisme autoritaire institué à zigouiller les anarchistes, hein. Donc sans vous rappeler d'un ouvrage aussi, j'ai pas le temps, peut-être la semaine prochaine, pour qui revient sur fait par un États-Unien sur la guerre d'Espagne, où ça a été extrêmement violent, hein, en particulier du côté des franquistes. Donc les exécutions sommaires, puisqu'on parle une sorte dans cet ouvrage, mais dans la traduction, en fait ils sont bagarrés par rapport à ce qui l'expression qui pouvait être employés de Holocauste ou de Shoah par balles, hein, comme vous savez, qui a eu lieu justement sur des millions de gens en dehors des camps d'extermination et de l'Allemagne, hein, dans les pays de l'Est, la Shoah par balle et l'utilisation de cette terminologie par un historien états-unien pour la guerre et pour les massacres des franquistes. Là encore une fois, on peut voir que toutes les sociétés se rapprochent dans ce qu'il y a de pire, dans ce qu'il y a d'abominable, hein, puisque sans aller voir évidemment ce qui se passe en Syrie, dans la pratique de bousiller, de torturer, d'exterminer celui qui pense pas comme vous ou celui qui est considéré comme un ennemi. Et ça, l'histoire est particulièrement importante, et de le rappeler, hein, justement, je parlais de cette histoire, une autre histoire que celle enseignée, comme dont je vous ai parlé tout à l'heure, par l'école de la République, où la guerre d'Espagne, évidemment, n'apparaissait nullement, ni la révolution mieux espagnole dans les copies, comme ni la Commune de Paris. Alors, pour le chaos dans les pays musulmans, je vous l'avais dit au début de cette émission, je vous ai parlé d'un aristocrate, monsieur de Villepin, je vais vous lire ce qu'il a mis il y a quelques mois, ou quelques semaines. L'ancien premier ministre français, Dominique de Villepin, jette un eau pavé dans la mare pestilentielle, puisque c'est d'actualité, des États-Unis d'Amérique, intervenant aujourd'hui sur une chaîne, là c'est, je vous le parlais, c'est ITélé, hein, ITélé, Cet ancien responsable, qui met dans l'article connu pour son franc-parler, accuse clairement l'administration Obama de poursuivre l'œuvre destructrice commencée en 2001 par Bush Junior, hein, Bush Junior après Bush Senior, ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, au Yémen et aux frontières en Libye n'est pas le fruit d'un hasard, dit de Villepin. Pour lui, ce sont les pays occidentaux qui nourrissent le terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme en Irak et en Syrie, il n'y en avait pas avant l'intervention militaire américaine-états-unienne de 2003, affirmant qu'étrangement, à chaque intervention militaire occidentale, on assiste à une montée des actes de terrorisme. Ben, il dit, oui, une sorte de boomerang hein, qui sont dans les pays occidentaux. Vous l'avez vu, je ne reviens pas là-dessus. L'ancien Premier ministre met en garde contre les pièges, le piège des dualités simplistes hein, qui voudraient opposer, on le voit à l'œuvre aussi, facilement, comme le fait une partie des analystes, alors lesquels hein, des analystes de marché, évidemment, l'islam à l'Occident. Pour Monsieur de Villepin, on ne peut pas parler de choc de civilisation, hein, ce qui ne sait nous faire croire. Lui qui ne cesse de rappeler la théorie, et ça, on est assez d'accord, du chaos contrôlé. Hein, je vous l'appelle aux auditeurs, la théorie du chaos contrôlé, mise en application par les laboratoires des services secrets états-uniens dès le début du XXIe siècle pour perpétuer leur domination du monde. Hein, c'est ce qu'il faut faire la guerre un peu partout, le capitalisme, hein, d'avoir plusieurs guerres au feu. Le chaos dans lequel vivent les populations musulmanes a été orchestré par l'équipe Bush et continué par l'administration Obama, déclare M. de Villepin, qui dénonce le fait que la France, écoutez bien, depuis M. Sarkozy, s'est alignée sur la stratégie états-unienne au Moyen-Orient, rompant avec ses principes de neutralité, de politique gaullienne pro-arabe. Hein, vous le savez, bon, on va pas revenir là-dessus. Et il déclare, je termine, la politique étrangère menée par M. Hollande, le Hollandais volant, hein, comme je l'appelle, puisque c'est un zombie, c'est un mort-vivant. Allez voir pourquoi on l'appelle le Hollandais volant, puisque c'est une longue histoire. Hein, aussi, tapez sur un moteur de recherche Hollandais volant, vous saurez, est en totale adéquation, la politique du Hollandais, avec celle de Sarkozy, hein, de ceux d'avant qui veut revenir, enfin tout ça, durant son quinquennat précédent, regrette-t-il. C'est la même chose, ben, je vous le dis, on vous le dit sur cette antenne, c'est la même politique, hein, c'est la même bourgeaille d'extrême gauche à extrême droite, et ce sera exactement pareil, ça continue, c'est pour leurs intérêts. Et donc, évidemment, les intérêts qu'ils ont, c'est que le capitalisme, pour se maintenir et pour pas que ça se voit, eh bien, nous fout dans un peu des guerres, un petit peu partout. Et pendant ce temps-là, qu'on vous parle de tous les médias de la guerre, et les rebonds, et ce qui se passe, évidemment, dans nos sociétés, pour nous faire peur, pour nous contrôler, ce que vous avez vu dernièrement, on revient sur une garde nationale, hein, des petits Français abusés qui ont été par l'école de la République repartent à l'assaut avec pour protéger le citoyen. Encore une fois, donc ce montage, évidemment, c'est montage pour contenir, pour se maintenir l'ordre inique, absolument injuste, absolument dégueulasse du système capitaliste. Eh bien, cette théorie du chaos contrôlé mise en place évidemment par les États-Unis, c'est l'avis de Monsieur de Villepin. C'est pas forcément le mien, mais je vous lis ce qu'il disait dernièrement sur une chaîne qui est apparemment arrêtée. Voilà, c'est Radio Libertaire, ben sur ces bonnes choses, je voulais vous dire, enfin quelques infos, on va finir un petit peu en poésie, c'est mieux, ça va faire de l'air, et en poésie, eh bien, de révolte, hein, poésie de subversion, poésie de rébellion, avec Benjamin Perret, hein, actualité, c'est l'actualité du surréalisme aussi, et bien au-delà, le samedi 12 novembre, c'est très bientôt, eh bien, il y aura à 15h30 une projection à la Halle Saint-Pierre, je vous le rappelle, c'est 2 rue Ronsard, dans le 18e à Paris, à 15h30, c'est entrée libre, hein, à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, vous pouvez aussi réserver. Eh bien, une journée, un après-midi tout du moins, consacrée à Benjamin Perret, poète, c'est-à-dire révolutionnaire, hein, avec la projection du film de Rémy Ricordeau, que nous avons reçu plusieurs fois à Radio Libertaire, et aussi, je le rappelle, dans cette émission, hein, autour de l'art singulier, de l'art brut surtout, à Taïwan, pour Rémy Ricordeau, et puis les films avec Jean-Pierre Le Verret, hein, je vous conseille d'aller voir aussi sur la société du travail, sur le travail. Son dernier film, vous pouvez le trouver à Publico, 145 rue Amelot, je vous le rappelle. Son dernier film, Je ne mange pas de ce pain-là, Benjamin Perret, poète, c'est-à-dire révolutionnaire, de film de 90 minutes, qui sera projeté à la Halle Saint-Pierre, je vous le rappelle, samedi 12 novembre, à partir de 15h30, 2 rue Ronsard, Paris, 18e. Alors, en présence de Rémy Ricordeau, d'Alain Joubert, écrivain ami de Benjamin Perret, rien que ça, de Barthélémy Schwartz, qui vient de d'écrire un ouvrage qui s'appelle Benjamin Perret, l'astre noir du surréalisme, aux éditions Libertalia, et de Dominique Calmet qui calmera, je ne sais pas, enfin bon, c'est comme ça, vous savez, c'est Chronique Hebdo, qui animera la rencontre. Alors je dis Calmet, pas tant que ça, parce que rappelez quand même que Benjamin Perret, ce qu'il a fait, il se déplaçait quand même dans les rues, quand il voyait un cureton sur l'autre trottoir, il allait le voir, il l'injuriait, le bousculait. Quand il voyait un politicien, évidemment, il s'arrangeait pour lui faire un croche-pied. Enfin, non seulement ça, mais il a fait presque le coup de poing, hein, où poussait des gens parce que il était en colère, et on le comprend à l'époque, et savoir pourquoi Benjamin Perret, la colère, comme je dis quelquefois, en acte ou en action, ou l'anarchie en acte ou en action, et quelquefois de bousculer un peu, évidemment, toutes ces momies, hein, puisque vous en avez une, vous le savez, à la présidence de la République, et il suffit pas grand-chose de souffler un petit peu pour la faire tomber. Voilà, c'est la fin de Chronique Hebdo, et on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Salut !